Bonsoir à tous, merci d'être venus. Petit préambule juste pour vous présenter un petit peu l'historique de ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, je m'appelle Philippe Fatus et il se trouve que j'ai des attaches en Normandie, d'où la pomme. Et je suis artiste plasticien et non pas un érudit ni un spécialiste de la mythologie ni des mythes, mais il se trouve que je suis modestement connu dans cet endroit de Normandie et qu'on m'a demandé de faire une conférence sur la pomme dans l'art. Et donc à partir de là, l'idée m'est venue de travailler plutôt à partir des mythes et donc j'ai fait cette conférence exposée à cette occasion que je vous repropose donc ce soir. Voilà. Alors donc, de récentes études génétiques ont démontré que les multiples variétés de pommes que nous connaissons en Occident sont toutes issues de pommiers originaires du Kazakhstan. Les pommiers se sont propagés au gré des migrations des peuples et dès le néolithique, ils constituaient une espèce répandue dans toute l'Europe. On pense que ces forêts de pommiers natifs, existent toujours au Kazakhstan. Et cette espèce native, de ce genre natif, est venue toutes ces centaines, voire peut-être paraît-il des milliers de pommiers, de pommes différentes que nous connaissons un peu partout en Occident, au Moyen-Orient et même en Afrique. Alors, dans les sociétés anciennes, la pomme revêt de fortes charges symboliques. Fécondité, prospérité chez les Grecs, la jeunesse éternelle chez les peuples nordiques, les plaisirs supraterrestres chez les Celtes, fruits maléfiques aussi chez les chrétiens. Donc, j'ai donc choisi de tenter de parler un petit peu de la présence de la pomme dans différents mythes, hein, ce n'est pas exhaustif naturellement. Alors, pour commencer, je vais vous parler du 11e des travaux d'Héraclès. Alors, je vous ai remis en mémoire donc les principaux héros de notre affaire, Gaïa, déesse primordiale, Héra, donc Junon à Rome, épouse de Zeus, Jupiter, le géant Atlas, Ladon, un dragon, les Hespérides et Héraclès. Donc, un pommier aux fruits d'or, symbole de fertilité, voilà le présent que Gaïa, une déesse primordiale grecque, a offert à Héra à l'occasion de son mariage avec Zeus. Près du mont Atlas, là où le soleil prend son repos, c'est le Maroc pour nous, et sur lequel le géant Atlas est condamné à soutenir la voûte céleste, Atlas a eu quelques démêlés avec les dieux, donc il a ça en punition, Héra donc a planté le pommier qu'on lui a offert dans le jardin des Hespérides. Les pommes d'or sont jalousement gardées par le fameux dragon, Ladon. Alors, selon les versions, il a une tête, deux têtes, 100 têtes, 1000 têtes. Et puis aussi par les trois nymphes, les trois Hespérides. Donc, Héraclès a été pris de folie. Alors, lui, il a eu des démêlés avec Héra. Et il a été pris de folie et il a tué sa femme et ses enfants. Et il a été condamné pour expier sa faute à exécuter 12 travaux, dont le 11e. Consiste justement à aller chercher des pommes dans ce jardin des Hespérides. Donc Héraclès se rend sur le mont Atlas, il tranche la tête ou les têtes des dragons selon les versions, mais en revanche, il se méfie quand même des Hespérides, et donc il trouve un stratagème pour avoir les pommes. Eh bien, on se rappelle que Atlas a sur le dos la voûte céleste, depuis longtemps déjà, et Héraclès va le voir et lui dit tu dois être fatigué. Si tu veux, je peux te remplacer un peu. Puis en échange, tu me rendras un petit service. Tu iras chercher les pommes dans le jardin des Hespérides. Bien sûr, Atlas accepte tout de suite. Héraclès prend la charge. Et Atlas va chercher les pommes. Alors, Atlas n'est pas très malin. Mais il n'est pas stupide complètement non plus. Et Héraclès le sait. Et se dit, mais s'il me laissait la charge de la voûte céleste sur le dos, j'aurais l'air malin. Donc quand il voit Atlas avec les pommes, il lui dit, Écoute, si tu veux, je peux te remplacer quand même un peu plus longtemps, parce que vraiment, tu me rends un fier service, et c'est très lourd, effectivement. Atlas est ravi. Et Héraclès dit, oui, seulement, le problème, c'est que c'est vraiment la voûte céleste, elle blesse, il me faudrait un coussin, quelque chose. Attends, reprends le ciel un peu, quelques temps, je vais chercher un coussin, et je reviens. On prend les pommes. Bon, je pense que Atlas est toujours en train de porter la voûte céleste, parce que Héraclès n'est pas revenu. Alors, donc... Mon idée, c'est maintenant, c'est de vous montrer à chaque fois les illustrations que j'ai pu retrouver, les plus anciennes jusqu'aux plus contemporaines, pour illustrer ce mythe. Alors, donc, parmi le plus vieux document que j'ai pu trouver, donc ici, on a affaire à un vase, hein, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, où on voit très clairement Héraclès, on le reconnaîtra toujours naturellement à la peau du lion de Némée et à la massue qu'il a à la main. Donc on voit le dragon, on voit les pommes, et puis quant aux autres personnages, eh bien, il faut quand même pas mal les deviner. Alors ici... Dans ce bas-relief grec, à peu près de la même époque, donc on voit Atlas qui rapporte les pommes, et c'est Athéna qui l'aide, parce que Héraclès, s'il a des difficultés avec Héra, en revanche, il est soutenu par Athéna, et là, Athéna l'aide donc dans cette tâche. Encore donc un autre vase grec à peu près de la même époque, donc, qui raconte la même histoire. Alors ici, on passe à Rome. Là, on ne voit pas les Hespérides, on voit simplement Hercule, qui est un petit peu potelé, pas trop musclé, qui est en train de se débarrasser du dragon, qui n'a qu'une tête dans cette version-là. Une mosaïque, hein. Là, les Hespérides sont réapparus. Et alors, le Hercule Farnèse, hein, qu'on peut voir à Naples, hein, qui est une des plus grandes statues de l'Antiquité qu'on connaisse, et qui est la réplique, la copie, paraît-il, d'une statue grecque qui aurait daté du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, cette énorme statue montre Hercule et dans sa main les fameuses pommes. Alors, on fait un grand saut, hein. On fait vraiment un très grand saut. Ça va nous arriver pas mal de fois, hein, puisque on passe du... On fait un saut de 1000 ans, quoi. Alors bon, ça n'a rien de particulièrement étonnant, puisque le Moyen-Âge, l'époque médiévale, ne s'est pas intéressé à la mythologie, ni grecque ni romaine, pour cause. Le monde chrétien donc n'avait pas d'intérêt pour ce monde païen, hein. Et donc il va falloir attendre la toute fin du Moyen-Âge pour que ces mythes réapparaissent et redeviennent en grand honneur avec la Renaissance. Alors ici, on a une miniature. Alors, chose qu'on reverra, hein, régulièrement, ce qui est un peu extraordinaire, moi ce que je trouve toujours extraordinaire dans ces reproductions, dans ces productions de la fin du Moyen-Âge, c'est que les personnages sont en habits contemporains de leur époque. Imaginez que tout de suite, on vous fasse la scène du jardin des Hespérides avec une fille en mini-jupe, l'autre en Lewis déchiré, et puis on a un CRS là, qui est en train de couper les pommes. On dira « Waouh, c'est super moderne et tout ». On est dans la même situation, en fin de compte. Hein. Dans cette époque du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge et au Moyen-Âge moyen, on représentait toujours les scènes, la plupart du temps, c'est des scènes religieuses, dans leur contexte contemporain. Voilà, et donc, quelquefois, on n'y fait même pas attention, d'ailleurs, nous. Alors, vous voyez que là, on a une tapisserie qui est exactement la même époque, mais là, on voit que l'influence de la Renaissance est beaucoup plus importante. Alors, naturellement, les Hespérides sont représentés au fond, on voit le pommier, le dragon, Héraclès. Bon, fin du XVIe siècle. Alors, cette gravure, Alors, bon, elle est assez intéressante parce qu'en fin de compte, les deux scènes sont représentées. On voit simultanément Héraclès ou Hercule qui s'occupe du dragon et en même temps Atlas qui cueille les pommes. Alors moi, je me demande qui est-ce qui tient le ciel pendant ce temps-là. Alors là, dans cette gravure, il y a une chose un petit peu étonnante, c'est quand même pas très courant. Hercule a posé sa massue et il se sert d'un arc. Bon. Par contre, il y a bien le pommier hein, sur la droite, il y a bien tout, il n'y a pas d'Hespéride en revanche. Alors, grand saut, hein, grand saut dans le temps, hein, grand saut dans le temps, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été traité du tout, mais le siècle des Lumières ne s'intéresse pas trop à ce genre de sujet. Le romantisme du 19e, non plus. Alors, il va falloir attendre vraiment la toute fin du 19e pour qu'on se réintéresse à ce genre de sujet. Et là. Donc on a bon, Frédéric Leighton qui est vraiment typique de l'époque victorienne, avec cette peinture un peu lascive, largement, enfin, avec un érotisme quand même assez prégnant, hein. Bon, en revanche, il n'est pas question là d'Hercule, on voit simplement le pommier, le dragon, enfin le dragon qui est un serpent, avec toutes les connotations qu'il peut y avoir, et nos trois Hespérides. Pareil, hein, le XXe siècle ne s'est pas trop intéressé à ce sujet. Là, un timbre-poste, timbre-poste de Monaco. Alors, en revanche. Donc, c'est des sujets qui reviennent très à la mode à la fin du XXe siècle, par la bande dessinée, par tout ce qui est fantasy, etc. Donc, tout ce qui est dragon, héros, tout ça revient à la mode. Et dans toute une imagerie oui, de fantasy, le sujet va réapparaître. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au jugement de Paris, où il est encore question de pommes. Donc, à l'occasion des. Ouais. Je vais vous mettre aussi les héros de l'affaire. Il y a du monde. Voilà, à l'occasion des noces de Pélée et de la belle nymphe Thétis, tous les dieux ont été invités. Tous, sauf un, une exactement, Eris. Eris n'a pas été invitée, c'est la déesse de la discorde. Ouais, elle est là. C'est la déesse de la discorde. Évidemment, elle était plus prudent de la tenir à l'écart de ce genre de festivités. Mais en revanche, Eris est au courant de l'affaire et elle veut se venger. Donc elle vient discrètement au milieu de l'assemblée et jette une pomme d'or sur laquelle est écrit à la plus belle. Évidemment que toutes ces déesses, on ne va pas dire ces dames, se jettent sur la pomme. Et bon, parmi les trois principales prétendantes, on va naturellement trouver Héra, Junon, l'épouse de Zeus. On va trouver Athéna, hein, qui est la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, et Aphrodite, Vénus, la déesse de l'amour. Ces trois déesses se battent pour la pomme, et Héra dit, bon, stop, on va demander à mon époux, Zeus, de donner son avis. Bon, Zeus a déjà souvent des histoires avec son épouse, il ne tient pas à en avoir une de plus, ni même avec les autres déesses, il dit, oh là là, non. Vous allez plutôt aller demander à Paris, qui est vraiment un spécialiste, on se demande pourquoi d'ailleurs, c'est le fils du roi de Troie, allez lui demander son avis, il vous les partagera. Donc, les trois déesses partent en compagnie d'Hermès, le messager des dieux, et se rendent auprès de Paris. Pour des raisons un peu compliquées, qui est en train de garder des moutons. Et bien sûr, nos trois déesses vont essayer d'influencer le juge. Alors, Héra promet le pouvoir politique, Athéna la victoire dans les combats, mais Aphrodite lui dit que si la pomme lui revient, eh bien, il épousera la plus belle des mortels, ben, pas elle quand même, elle est au-dessus, donc elle va pas dire des femmes. Et cette plus belle des mortels, c'est Hélène. Hélas, la belle Hélène est déjà mariée à Ménélas, le roi de Sparte. qui n'apprécie guère qu'on lui enlève son épouse et qui décide, avec l'aide des héros grecs ainsi que de Héra et d'Athéna, de récupérer son bien là où on l'avait emmené, c'est-à-dire à Troie. On connaît la suite, le siège de la ville, le cheval de Troie, les massacres, les destructions de la cité. Toutefois, nous sommes bien obligés de reconnaître la supériorité des anciens, qui au moins avaient des motifs sérieux pour se faire la guerre. Détruire une cité pour récupérer une jolie femme, bon, ça a dû cacher au moins. Si on leur avait dit que 25 siècles plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, les hommes manqueraient d'imagination au point d'invoquer des prétextes religieux pour se massacrer, ils n'en auraient pas cru leurs oreilles, et quant aux dieux, ils auraient été pris non pas d'un rire homérique, mais à mon avis d'un fou rire homérique. Alors, pour illustrer cette affaire, donc, ben, on retourne donc dans la Grèce du 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est un bronze, je crois que c'est l'envers d'un miroir. Et, alors, toute la scène est représentée absolument avec tous ces personnages. Alors, ça peut être c'est un peu confus hein, de loin, mais on a nos trois déesses, on a Hermès et Paris. Alors, un vase, à peu près de la même époque. Voilà, donc là, c'est clair. Alors, en revanche, bon, j'ai essayé dans tous mes documents qu'il y ait une présence de pommes. Alors, là, bon, peut-être que la pomme est sous le pied d'Hermès. Bon, on va dire ça comme ça pour qu'on puisse présenter le document. Une mosaïque, hein. Romaine. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, en fin de compte, c'est vraiment exactement la copie. Pourtant, c'est pas un gros plan, hein, parce que bon, c'est encadré, mais ça a été vraiment copié à l'époque, hein, trait pour trait. Bah oui, on fait encore un grand saut, un grand saut dans le temps, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et puis, même commentaire, hein, on a nos trois déesses qui sont habillées en princesse ou en reine médiévale. Quant à Paris et Hermès, bon voilà, ils sont. C'est exactement la même remarque que ce qu'on a pu faire tout à l'heure, que celle qu'on a pu faire. Alors. Document de la même époque, mais où là, en revanche, c'est bizarre parce qu'il est vraiment très. Je me demande si la date est vraiment bonne parce que 1430, c'est bon. Je sais bien que ça vient d'Italie, mais là, on a vraiment une impression de Renaissance, quoi, dans les vêtements, dans la facture et tout. Je ne suis pas très sûr que la date soit juste. Alors là, bon, là, toujours pas 1450. Alors, encore une fois, une enluminure. Et alors, l'intérêt, indépendamment de ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les costumes, c'est que nos trois déesses sont nues. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Parce que dans toute la représentation médiévale, c'est pas que le nu était interdit, mais il était réservé uniquement à Adam et Ève. Et c'est tout, c'était les seules représentations de nu qui étaient autorisées. Et là, c'est toute fin du Moyen-Âge, on est juste à la fin de la guerre de 100 ans. Donc, c'est les premières fois que des femmes ou des hommes nus apparaissent et non pas en représentation de la Genèse. Botticelli. Alors évidemment, 1485, quand on est en Italie ou quand on est à Paris, il y a quand même des décalages. Là, c'est clairement renaissant. Mais encore une fois, vous voyez, les costumes, il a cherché à faire des costumes qui aient un aspect un peu antique. Mais en revanche, le paysage derrière est parfaitement contemporain de son époque. Le bateau qui est échoué, imaginez un pétrolier contemporain pour nous. Et quant aux monuments, ils sont parfaitement reconnaissables. C'est vraiment des monuments contemporains de cette époque-là. Raphaël, alors, qui donne une pomme à chacun, bon, j'ai un petit peu triché parce qu'en vérité, je pense que c'est plutôt les trois grâces, mais le tableau est tellement beau et puis bon, elles ont chacun une pomme. Voilà. Ah, par contre. Voilà, donc une gravure d'après Raphaël. Bon, alors qui est très chargé. Là, il n'y a pas un détail du mythe qui a été oublié. Cranach, l'ancien. Là, bon, encore donc des femmes représentées nues. En vérité, il y a une sorte de petit voile dessus. Et alors, cette façon si extraordinaire qu'a Cranard de représenter le corps humain, surtout le corps féminin, qui est vraiment très, très curieuse. Mais encore une fois, on est dans une situation, imaginez un peintre tout de suite qui vous fait trois femmes nues avec un CRS, un garde mobile, derrière un char d'assaut et puis la défense derrière. Ben voilà, c'est ça, on est exactement dans cette situation-là à l'époque. Rubens fait ce tableau en 1636 et juste avant de mourir, donc 3 ans plus tard, fait cette version. Hermès a un air un peu rigolard là. Une petite céramique, je pense, du 18e, avec c'est très un peu caractère un peu coquin de la Régence, hein. Mais là, toute la scène est parfaitement représentée. Alors, c'est pas quelque chose qui a passionné encore une fois le siècle des Lumières. On va avoir quelques représentations des néoclassiques, hein. Alors là, on a François-Xavier Fabre, donc représentation typiquement néoclassique de notre affaire. Jean-Baptiste Regnault, qui lui aussi est un peintre néoclassique et académique, mais bon, en revanche, il y a quand même une façon de traiter qui est quand même vraiment intéressante, quoi. Bon, la fin du 19e ne se passionne pas du tout pour le sujet. En revanche, bon, bah, là, je ne sais pas quelle affaire ça a pu. Je n'ai pas réussi à savoir quelle affaire ça pouvait illustrer. Donc, un journal qui reprend ce mythe pour illustrer une affaire contemporaine du début du XXe. Renoir, en 1908. Et Renoir, en 1914, donc quelques années après, qui a traité, donc en sculpture, hein, en modelage, ce qu'il avait traité en image. Un bronze. Bon, alors là, on passe à un traitement donc de Lhotte, hein, qui est un traitement cubiste, hein. Donc là aussi, il y a des choses assez curieuses dans le sens où Paris s'est représenté dans une espèce d'habits plus ou moins antiques, mais en revanche, derrière, c'est un paysage contemporain de 1912. Salvador Dali. Bon. Qui a fait de très belles choses, et d'autres moins bonnes. Alors, Robert Combas, donc, qui est un peintre vraiment contemporain, de la nouvelle figuration, hein. Voilà la façon dont il traite les choses, côté un peu entre le street art, la bande dessinée, enfin c'est quelque chose de très moderne, mais enfin tout y est, hein. Bon, je suis désolé, et moi. Bon, alors je passe en dernier parce que chronologiquement, voilà. Donc c'est une série que j'ai fait sur les mythes, hein, et comme je travaillais sur des mécaniques en même temps, je me suis permis de me servir du tableau de Botticelli et de remplacer les trois déesses par des moteurs. Bon, alors un dernier mythe de l'Antiquité où il est question de pommes, c'est le mythe d'Atalante et d'Hippomène. Alors, le père d'Atalante avait décidé qu'il était temps pour sa fille de se marier. Alors, Atalante est une jeune fille qui adore la nature. Elle adore courir dans la nature et elle adore courir très vite. Et d'ailleurs, elle court vraiment très vite. Et en tous les cas, elle aime la nature, mais elle n'a pas du tout envie de se marier. Mais son père pense qu'elle est en âge de se marier. Et donc, lui dit voilà, qu'il faut qu'elle se marie. Mais cette dernière n'est pas du tout du même avis, elle refuse de prendre un époux, et elle doit céder à la volonté de son père, mais elle a une idée. Elle donne une condition. Elle dit, voilà, je vais épouser celui qui me battra à la course à pied. Bon, le père dit, oui, si tu veux. Mais en revanche, ceux qui ne me battent pas, je les percerai de mon javelot. Bon, on avait les distractions qu'on pouvait à l'époque. Le père accepte. Bon, le premier prétendant se présente. Hein. La course débute. Et Atalante n'a aucun mal à le rattraper, à le percer de son javelot. Bon, un deuxième se présente, un troisième, un quatrième, et ils finissent tous de la même façon. Puis, un jour, vient Hippomène. Bon, celui-là, on a retenu son nom. Mais Hippomène, il est protégé par Aphrodite. Et Aphrodite lui a donné 3 pommes d'or. Donc, on reprend la même situation. Donc, Hippomène part en courant, Atalante le laisse partir, naturellement, elle est sûre d'elle, mais bien sûr, Hippomène laisse tomber une pomme. Atalante s'arrête, la regarde, la prend, reprend sa course, mais il y a une deuxième, il y en a une troisième. Mince, Hippomène a passé la ligne d'arrivée, il faut bien se marier avec lui. Non, c'est pas triste, parce qu'en fait, ils s'entendent très bien, ils s'entendent parfaitement bien. Ils s'entendent si bien, d'ailleurs, qu'ils sont pris de furie amoureuse, et ils ne peuvent pas se retenir de faire l'amour sans cesse, si bien qu'un jour, ils sont près du temple de Cybèle, ils se précipitent dedans, mais Cybèle les surprend et les transforme en lions et en lionnes, et ces lions et lionnes devront tirer son char, voilà la punition. Alors, je n'ai pas trouvé... d'illustration de l'Antiquité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, mais moi, je n'en ai pas trouvé. Les premières que j'ai trouvées, donc, encore une fois, ce sont des enluminures, de la fin du Moyen-Âge. Voilà. Gravure, 17e. Une gravure sur bois. Alors, donc, Guido Reni, donc, qui est un peintre extraordinaire, vraiment extraordinaire, pas des plus connus. C'est d'ailleurs le tableau qui sert pour présenter la prestation de ce soir. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui, vous connaissez certainement, mais moi, je trouve extraordinaire. Là, ce tableau est vraiment particulièrement magnifique. Alors, cette gravure, qui elle a rien d'extraordinaire, en revanche, elle a un avantage, c'est qu'elle raconte vraiment tout le mythe, puisqu'on voit Hippomène avec ses pommes, Atalante qui ramasse, et on voit dans le temple, on voit les deux amants, et puis on voit le lion et la lionne qu'ils vont devenir. Bon, ceci dit, ils ont l'air, le lion et la lionne ont l'air d'être bien souriants. Ma foi, peut-être qu'ils ont continué tranquillement leur vie érotique sous forme de lion et de lionne. Voilà, ça, on peut le voir au musée du Louvre. Peinture 18e. Bon, alors, 19e, le romantisme n'est pas intéressé, les impressionnistes, aucun courant ne s'intéresse beaucoup au sujet. Donc, on va retrouver donc, un peintre anglais qui traite le sujet, 1950, d'une façon un petit peu néoclassique, d'ailleurs. Et alors là, donc, Vic Muniz, qui est intéressant, c'est un peintre contemporain qui est brésilien. Donc il s'agit d'un dessin et d'un collage. Donc c'est un bric-à-brac de détritus en tout genre, une décharge. Et donc il a repris le tableau de Reni. Voilà. Voilà, donc on va quitter la Grèce antique. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux mythologies nordiques, celtiques, gauloises, avec Idun, l'île d'Abalon et Epona. Qu'est-ce que j'ai mis après ? Voilà. Donc, j'ai présenté les trois mythes. Alors, Idun est une déesse majeure de la mythologie scandinave. Elle est l'épouse de Bragi, le dieu de la poésie. Et en islandais, le nom de Idun signifie « celle qui peut faire rajeunir, celle qui renouvelle ». Alors, Idun peut réaliser ce prodige grâce à des pommes merveilleuses qu'elle conserve dans un coffre. Celui qui en mange rajeunit. Alors, il faut savoir un détail, c'est que les dieux normands étaient mortels et vieillissaient. Et quand ils sentaient leur force décroître, eh bien, ils allaient voir Idun, manger quelques pommes et repartaient pour de nouvelles aventures. Voilà. Wagner s'est inspiré d'Idun pour créer le personnage de la déesse Freyja dans le Ring des Nibelungen. Ouais, c'est, alors, donc, bien que ce mythe soit vraiment plus que millénaire, on n'en trouve aucune représentation graphique. Les seuls qu'on va retrouver, c'est pas un hasard non plus, c'est vers la moitié du, comme tous ces mythes, hein, les mythes nordiques, celtiques, germaniques, hein, c'est vers la moitié du 19e siècle. On va remettre en culture, à l'honneur toutes ces cultures médiévales par un. C'est une branche du romantisme, hein, qui va en être responsable. Alors, donc, je vais vous parler tout de suite du deuxième sujet, l'île d'Avalon, parce que j'ai peu de documents dessus à vous montrer. Alors, l'île d'Avalon, la légende arthurienne nous est connue par des récits qui datent du début du XIIe siècle. Mais on peut penser qu'ils sont consécutifs à des traditions orales dont l'origine semble difficilement repérable. Ces textes racontent la résistance des peuples celtes de Bretagne aux invasions germaniques des 5e au 6e siècle. Selon ces textes, après sa dernière bataille, le roi Arthur fut emmené en l'île d'Avalon, où vivait la fée Morgane. Et selon les versions, soit il y mourut, soit il s'y réfugia avant de reprendre le combat. Mais c'est en ce lieu que Excalibur, la fameuse épée du roi, aurait été forgée. Alors, le rapport avec la pomme, quand même. Eh bien, Avalon, ou Afal, veut dire pomme, ou pommier, dans les langues celtiques. Avalon est donc l'île des pommiers, ce qui signifie une île prospère et fertile. La même racine du mot se retrouve dans la plupart des langues européennes, non latines, apple en anglais, apple en allemand, apple en hollandais, apple en luxembourgeois, apple en danois, apple en suédois, apple en finnois et epli en islandais. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà. Alors, donc dans ce cas encore, on ne trouve pas de représentation du mythe avant le milieu du 19e siècle. Et le troisième, donc, que j'ai trouvé, c'est Epona. Epona qui est une déesse mère gauloise, qui est la déesse des chevaux, mais elle est représentée toujours à cheval, ça c'est clair, mais quelquefois avec une pomme dans la main, sans qu'on sache... exactement pourquoi, sur mon corps, ça doit être un symbole de fécondité, certainement. Le premier document, donc on se retrouve au Danemark, hein, avec un peintre, c'est une facture néoclassique, romantique, hein, bien typique du 19e, hein, bien sage, qui présente Idun avec ses pommes et son époux, le dieu de la poésie. Toujours au Danemark, hein. Donc, encore une fois, une statue très, très néoclassique qui représente la déesse. Là, donc, je sais pas trop ce que ça... On dirait, c'est une illustration, qu'est-ce que ça peut... Est-ce que c'est une aquarelle? Je sais pas exactement. C'est un peu chromo, quand même. Bon, qui représente le mythe. Est-ce que c'était une illustration sur un livre d'enfant? Je sais pas. Mais enfin, bon, tout le mythe est représenté comme on le connaît. Alors, intéressant, au début du XXe siècle, le mythe va intéresser des dessinateurs Art Nouveau. Et donc, on va voir quand même de choses assez jolies. Voilà, en particulier Arthur Rackham, donc, qui est un graphiste anglais. Et bon, c'est vraiment très, très, très Art Nouveau. Très, très élégant. Hein. C'est station de métro, quoi. C'est ancienne. Bauer. Alors, bon, là, on passe à l'illustration du mythe d'Avalon, de l'île d'Avalon, avec la mort du roi Arthur, Morgane, fait Morgane, et les pommiers. Alors, c'est un peu curieux, parce que le tronc du pommier, cette façon de tourner, c'est plutôt... ce serait plutôt un poirier, en vérité, mais il porte bien des pommes. Voilà, bon, c'est pas un tableau extraordinaire, mais enfin, il représente le mythe, et il y en a tellement peu que je voulais présenter. Une cidrerie bretonne qui a commandé récemment des vitraux, et en particulier une représentation de ce mythe. Et puis, quant à notre fameuse Epona, eh bien, c'est la seule représentation que j'en ai trouvée où il paraît que c'est vraiment une pomme, hein, d'après les spécialistes, c'est vraiment une pomme. Donc elle est sur son cheval avec cette pomme. C'est la seule illustration que j'en ai trouvée, en tous les cas. Voilà, alors maintenant, on va passer naturellement à Guillaume Tell, c'était incontournable. Donc je vous ai mis les héros et les principaux points. Alors, donc, Guillaume Tell. C'est au XVIe siècle qu'apparurent les premiers récits mettant en scène Guillaume Tell, le héros d'événements qui aurait eu lieu au XIVe siècle, époque où la Confédération helvétique était sous le joug du Saint-Empire germanique et aspirait à s'y soustraire. L'histoire raconte que le bailli Hermann Gessler, un fonctionnaire au service des Habsbourg, fit ériger un mât sur lequel il plaça un chapeau aux couleurs des Habsbourg et exigea que chacun le saluât lorsqu'il passait devant. Guillaume Tell, un archer, refusa de se soumettre à l'humiliation et se vit condamné à tirer un carreau d'arbalète, une flèche d'arbalète, sur une pomme posée sur la tête de son fils. La pomme fut percée et le fils sauvé. Mais de ce jour, Guillaume tenait en réserve un autre carreau qu'il finit par planter dans le cœur du bailli. Voilà. Donc ce mythe se développe au moment où la Confédération a besoin d'unir son peuple pour réussir à accéder enfin à l'indépendance. Hein, donc c'est souvent... Bon, les mythes ont toujours pratiquement toujours une raison d'être politique. Hein. D'ailleurs, les mythes ont souvent... surtout les mythes antiques, d'ailleurs, ont plein de versions différentes, hein, tout simplement parce qu'ils se transforment au cours du temps et au cours des lieux géographiques où ils peuvent être racontés, et on va les adapter à une situation politique nouvelle, et c'est pour ça que très souvent ils peuvent différer. Donc les versions des contes, d'ailleurs, des mythes que je vous ai racontés tout à l'heure, sont des versions, parce qu'on peut en trouver des bien différentes. Hein. Alors, bon, dans cette histoire de Guillaume Tell, la chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi une pomme ? Pourquoi une pomme ? J'ai essayé de chercher si les gens s'étaient posé la question. D'accord, une pomme, ça tient bien, mais ce n'est pas très avilissant, hein, puisque là, il était question quand même d'avilir cet archer. On aurait pu penser qu'on ait mis un légume souterrain, je ne sais pas quoi, une betterave. Enfin bon, voilà, donc c'est une pomme en tous les cas. Alors, donc on a vraiment des représentations contemporaines, hein, du mythe écrit en tous les cas. Donc ici on a un vitrail, 1530. Voilà, il y a tous les éléments, hein, le bailli, l'archer, le fils, une gravure. Alors ici, c'est un fourreau un fourreau de couteau. Alors, j'ai fait un gros plan. Alors, je ne sais pas si c'est très, très lisible, mais on voit on voit Guillaume Tell, donc il tire un carreau, et on voit le fils. Hein. Je ne sais pas si c'est très lisible. En tout cas, c'est une très belle chose, un très bel objet. Alors, Rossini, naturellement, 1829, qui traite le sujet. Et là, c'est une mise en scène qui date de l'année dernière, qui a été faite aux États-Unis. Une peinture murale, une fresque, qui est quelque part en Suisse. Bon, j'ai pas pu me retenir de vous le mettre. La pomme, bien sûr, a été remplacée par une citrouille. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, on voit que c'est un muse qui continue à intéresser, puisque une bande dessinée donc, de David Boller, donc, qui est contemporain, continue à traiter le sujet. Bien. Maintenant, nous allons passer... Donc, la Bible. Et on va commencer par le Cantique des Cantiques. Alors, lors de cet exercice qui nous est à tous familier et qui consiste à lire régulièrement l'Ancien Testament en hébreu et sa traduction en grec, la Septante, ainsi que celle en latin, la Vulgate, sans oublier les bonnes traductions en français, nous sommes obligés de constater qu'il y est fort peu question de pommes. Les seuls versets où ce fruit est évoqué sont dans les Proverbes, je vous cite, « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Dans Joël, « La vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris, la joie a cessé parmi les fils de l'homme. » Alors c'est surtout dans le Cantique des Cantiques, ce merveilleux poème qui au sein de la Bible constitue une sorte de havre de paix dans un monde tumultueux, on va dire, et dans lequel nous pouvons lire « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » Ailleurs, toujours dans le Cantique des Cantiques, « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle, celui des pommes. Enfin, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Je l'ai réveillée sous le pommier. Là, ta mère t'a enfantée, c'est là qu'elle t'a enfantée, qu'elle t'a donné le jour. Voilà. Dans l'Ancien Testament, les fruits symboliques de fertilité et de prospérité sont le grenadier, le figuier, la vigne. La pomme n'est jamais mentionnée, très peu, si ce n'est dans les versets cités ci-dessus. Et il est remarquable que la pomme retrouve son symbolisme dans le Cantique des Cantiques, ce livre dont la présence au sein de l'ensemble reste un peu énigmatique. Alors, le Cantique des Cantiques a été illustré par Chagall, qui a fait de très belles choses, mais franchement, je n'ai pas trouvé quelque chose qui ressemble à un pommier, à des pommes, à moins de vous faire passer un arbre rouge avec des ronds bleus pour un pommier. Donc j'ai préféré en rester au texte que je vous ai cité, qui me semble déjà être assez beau en soi. Alors maintenant, évidemment, les héros. Maintenant, place aux incontournables héros de la pomme, Adam et Ève. Comme chacun sait, les deux pilleurs de vergers furent chassés du paradis terrestre pour avoir mangé une pomme, ce que leur avait formellement interdit le propriétaire des lieux. Mais hélas, ni pomme, ni pommier dans le jardin d'Éden. On y parle seulement d'arbres et de fruits. Depuis l'Antiquité, les exégètes de la Bible se sont penchés sur cette question primordiale qui consiste à savoir à quelle espèce pouvait bien appartenir ce fameux fruit défendu. Toutes sortes d'hypothèses ont été proposées, mais le plus souvent, les spécialistes des textes religieux ont opté pour le fruit qui symbolise le sexe féminin dans tout le bassin méditerranéen, la figue. Autre argument, lorsque les deux gourmands s'aperçoivent qu'ils sont nus, ils se confectionnent des ceintures de feuilles de figuier. Bon, on pourra objecter que c'est plus facile à faire avec des feuilles de figuier qu'avec des feuilles de pommier, mais enfin, bon. Alors, pourquoi donc, à la fin du Moyen-Âge, ce fruit devient-il définitivement une pomme? Alors, l'hypothèse la plus probable, c'est une erreur de traduction de la Vulgate, c'est-à-dire la version latine de la Bible. En effet, en latin, les mots qui désignent le mâle, le contraire du bien, le mâle et la pomme sont très proches, et donc on pense qu'il s'agirait d'une erreur de traduction qui fait que peu à peu, eh bien, la pomme est pris le dessus dans ce récit. Alors, donc, une erreur de traduction serait donc à l'origine de la production d'une quantité innombrable de textes et d'œuvres d'art, parmi lesquels de très nombreux chefs-d'œuvre. Bon, ceci dit, raisonnablement, on peut penser que si on avait préféré une figue, une poire, ou voire même une banane, on aurait eu autant de chefs-d'œuvre. Hein. Autre conséquence malheureuse pour la pomme, ce fruit positif, symbole de jeunesse, de fertilité, de prospérité dans toutes les cultures occidentales, va devenir à partir de la fin du Moyen-Âge, dans l'Occident chrétien, un fruit suspect, succulent, il est vrai, mais aussi capable de maléfices, en est témoin la mauvaise aventure qui arriva à Blanche-Neige. Alors, donc, les représentations humaines sont rares dans l'art juif. En raison du respect du deuxième commandement qui interdit de faire des images. Enfin, ça ne veut pas dire d'ailleurs que dans l'Antiquité, il n'y ait pas eu de représentation de personnages par des communautés juives. Bon, en tous les cas, moi, je n'ai pas trouvé de représentation de Adam et Ève antérieure. Donc, la première chose que j'ai trouvée, voilà, c'est ça, c'est ce bas-relief hein, d'un anonyme qui représente Adam et Ève et un arbre. On va dire un arbre. S'agit-il de pommes ? Bon. Bon, là, on fait un saut parce qu'évidemment, les documents ne sont pas très nombreux. Et donc, à la cathédrale d'Amiens, par exemple, hein, vers 1220, donc on trouve cette représentation. Alors là, vous voyez, il y a des nus, hein, il n'y a pas de souci, il y a des nus parce que ce sont Adam et Ève, il n'y a pas d'interdit. Alors, quant aux fruits, on ne peut pas trop savoir ce que c'est. Là, ici, un très, 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 très jolie sculpture bas-relief. Donc, c'est quand même clair et net que là, les fruits, c'est des figues, quoi. Hein, que l'arbre, c'est un figuier. Alors, il devait quand même hésiter un peu parce qu'il a représenté des pommiers sur la gauche. Elle dit des fois que. Alors, ici, à Arles, donc fin du XIIe siècle, hein, pas très évident de dire ce que c'est. Hein. Bon, à Paris, au moins, c'est clair. On opte pour des pommes dès le XIIe siècle. Alors, cette sculpture d'Autun est vraiment, moi je la trouve vraiment extraordinaire, quoi, cette représentation d'Ève. On a l'impression qu'elle nage. Il y a vraiment un côté, c'est un peu surréaliste. Moi, je trouve que c'est vraiment tout à fait bizarre et très beau en même temps. En tous les cas, elle cueille bel et bien une pomme. Une enluminure. Alors, donc, on se demande trop avec quoi il se couvre le sexe, là. Je ne sais pas trop ce que ça peut être. Un régime de banane. Toujours représentation. Toute fin du Moyen-Âge. Alors, Dürer, donc un dessin de Dürer, très très beau, très beau dessin, hein, très, très naturel, très naturaliste, très, très, Moi, je trouve ça splendide, quoi. Et sans souci de cacher les sexes, voilà. Bon, et puis en plus, il a mis une pomme à chacun. Voilà. Et quelques années plus tard, il a fait cette gravure. Alors, ça, je pense que c'était destiné à un usage plus ou moins privé. En revanche, une gravure, c'était destiné à être diffusée. Alors là, évidemment, eh bien, les sexes sont cachés. On n'a plus qu'une seule pomme dans la main de Ève. Et puis, bon, d'un dessin qui était excessivement gracieux, élégant, bon, c'est pas que ça soit laid, ça, mais on trouve quelque chose de, bon, avec la gravure, plus sculptural. Alors, maintenant, voilà, je vous ai remis le premier dessin, je vous l'ai mis à l'envers. Et là, c'est clair et net. C'est clair et net que c'est soit un dessin préparatoire, soit il a eu l'idée de s'en servir après. Alors, pourquoi le dessin original est à l'envers, en fin de compte? Bon, bah, la raison, elle est simple. Hein. Quand on fait une gravure, que ce soit de l'eau forte ou de la pointe sèche, si on reproduit son dessin tel quel, eh bien, il va sortir à l'envers. Si on veut avoir quelque chose qui soit comme le dessin originel, il faut le copier à l'envers pour qu'il sorte à l'endroit. Donc, ça prouverait bien quand même que c'est un dessin préparatoire. Alors, Jean Gossert, donc, on est quand même une cinquantaine d'années plus tard, donc reprend exactement, hein, vraiment, pas de problème, hein, copie conforme. Bon, alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est les conclusions qu'on peut parce que c'est ce genre de choses, on va trouver ça sans arrêt à cette époque-là, c'est qu'on n'avait absolument pas l'idée de la propriété intellectuelle, artistique, comme on peut l'avoir aujourd'hui. L'idée de plagiat, c'est un truc qui n'existait pas. Quand on pense qu'aujourd'hui, on a mis trois mots dans un roman qu'on a pris dans l'autre, et c'est le procès. Non, à l'époque, on se servait de l'œuvre des autres, sans cette fois, il n'y avait pas de vol, c'était une citation, c'est tout. En musique, ça s'est fait, mais alors énormément. Vivaldi, Bach, sans arrêt, ont pris des séquences des uns aux autres. En théâtre, il paraît que la compagnie Shakespeare, quand il y avait dans une autre compagnie une scène qui passait bien, qui marchait bien, eh ben on l'a copiée, on la mettait dans la pièce. La propriété intellectuelle n'existait pas du tout de la même façon qu'elle peut exister aujourd'hui. Dürer, donc, qui retraite encore le sujet. Alors, c'est deux tableaux différents, hein. c'est pas le même. Enfin, c'est un diptyque. Holbein, donc, qui traite d'une façon assez étonnante, hein, avec un naturalisme. Un naturalisme assez extraordinaire. Alors, Cranach, donc on a déjà vu tout à l'heure, et puis alors donc, encore une fois, cette façon de représenter le corps féminin qui est si particulière chez lui. Alors, Titien, donc peint cette scène en 1550. Donc, Titien, donc, qui est un peintre vénitien, et regardez bien, Rubens, flamand, il s'est quand même passé 78 ans. Pardon, je suis un peu vite. On ne peut pas penser que c'est le hasard, hein. Pas facile. Mais c'est pas du vol, hein, c'est... Simplement, il devait avoir une admiration de Rubens pour ce tableau. Il a voulu ne pas le copier, mais le retraiter à sa façon. Et même en 1640, Jordaens, Donc reprend le sujet. C'est clair que il y a beaucoup d'analogies. Hein. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un tableau qui a été fait par Bruegel, l'ancien, et Rubens. Bruegel, ayant fait les décors, et Rubens, en tous les cas, les personnages. Alors, attention, hein, quand on dit que Rubens a fait et que Bruegel, enfin, a fait, ça se trouve, ils n'y ont même pas touché. Il ne faut pas oublier que ces gens-là avaient des ateliers énormes, énormes. Rubens, il paraît qu'il y avait plus de 100 personnes dans son atelier, c'était des usines. Naturellement, quand on dit le tableau est de Rubens, bah, non. C'est pas pensable qu'ils aient fait des œuvres aussi grandes tout seuls. Donc c'est un petit peu, il faut plutôt s'imaginer les restaurants actuels de grands cuisiniers. C'est évident que le cuisinier, ça fait peut-être 3 semaines qu'il n'est pas passé dans sa cuisine. Mais ça n'empêche que c'est son œuvre quand même. C'est son œuvre quand même. Voilà. Donc ça, je voulais quand même dire ça. Bon, ça, on le sait, mais c'est évident que la production de cette époque était telle. D'ailleurs, dans les grands ateliers, on avait des calques. À la Renaissance, par exemple, on avait des calques. C'était des artisans. D'ailleurs, la notion d'artiste n'existait pas. Elle n'existait pas comme aujourd'hui. C'était des artisans. C'était des ateliers qui produisaient. On leur faisait des commandes. D'ailleurs, si la commande ne correspondait pas à ce qui avait été prévu, on ne l'acceptait pas et c'était réglé. Et ils avaient des calques. Ils avaient des calques. Et si tout d'un coup, ils étaient pressés, tiens, mince, il me faut une Marie-Madeleine agenouillée comme ça. Oh, bon, on n'a pas le temps. Bon, va voir chez machin s'il n'en a pas une. Bon, chercher dans les trucs. Tiens, il y a ça. Et des fois, on se dit, mince, elle est un peu petite, elle est un peu grande. Bah oui, bah, ils l'ont trouvé celle-là, ils l'ont décalqué, c'est tout. Hein. C'était une production, c'était une production en série. Hein. C'était des très gros ateliers. Bon, là, je l'ai pris parce que côté un peu naïf, amusant, la représentation des animaux est très, très marrante. Alors, ça, ça me sidère, ça. Voilà, cette représentation de Rembrandt, bon, qui est vraiment des peintres majeurs, hein. Mais alors là, c'est sidérant, quoi. Parce que, enfin, moi, je trouve ça sidérant, en tous les cas. Là, ils n'ont même pas mangé la pomme. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait, ils n'ont même pas pêché. Ils sont dans le paradis sur Terre, hein. Et déjà, regardez leur visage, ils sont déjà mauvais, quoi. Enfin, ils sont mauvais, ils ont pas l'air très sympathiques. Hein. Le corps est déjà fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Rembrandt ? Il veut dire que même avant le péché originel, de toute façon, les humains étaient déjà... Il fallait s'en méfier. Voilà, enfin bon, ça, je trouve ça vraiment étonnant. Hein. Bon, et puis très beau en même temps. Bon, alors là, on fait un saut. Hein. On fait un saut parce qu'évidemment, le siècle des Lumières n'avait pas grand intérêt pour ces histoires. Le 19e, le romantisme, c'est pas passionné non plus. Alors, ça va intéresser à nouveau des gens des écoles proches du symbolisme. Hein, là, donc, Gustave Courtois, qui est pas un peintre hyper connu. Alors, la scène est représentée. Une espèce de lascivité. C'est quelqu'un qu'on rapproche du symbolisme. Enfin bon, pour moi, il est plutôt néoclassique que symboliste. Alors, donc, ça n'a pas grand intérêt. Là, pour la petite histoire, ce que je vous présente ce soir m'avait été demandé donc dans une ville normande. Et il se trouve que dans leur mairie, il y a cette sculpture, et en fin de compte, ils ne l'avaient jamais remarquée. Et donc, c'est pour ça que je l'avais mis là-dedans. Gauguin, donc on passe vraiment à autre chose. Dali, bon. Botero, bon, j'aime beaucoup Botero. Alors, ce qui est quand même amusant là-dedans, Eh bien, c'est que c'est pas Ève qui prend la pomme. Voilà, Claude Fournier, donc, c'est une vision comique, hein, c'est-à-dire que déjà super consommateur dès le paradis sur Terre, dans le jardin d'Éden. En fin de compte, ça rejoint peut-être un petit peu la vision de Rembrandt. Un vitrail, je ne vous dirai pas ni d'où il vient, ni par qui il a été fait, parce que je n'ai pas pu le trouver. Donc, en tous les cas, c'est un vitrail contemporain qui traite l'affaire. Voilà, alors là, tout à fait dans des choses assez à l'époque, à la mode encore à notre époque. On est quand même dans des visions à la limite, à mon goût, un peu vulgaire. Et ça, donc, une version quasi street art, hein, donc de NYSS, donc, est un peintre de nouvelle figuration contemporain, street art. Donc, mais enfin, ceci dit, il traite le sujet, puis c'est plutôt pas mal, quoi. Ouais. Et Blanche-Neige. Alors, pour terminer notre petit voyage, on va passer à l'Ecclésiaste. Au XVIIe siècle, la réforme protestante s'implante dans de nombreuses régions européennes, et particulièrement aux Pays-Bas, où le calvinisme implique des comportements sociaux en conformité avec les préceptes de la Bible, et donc l'exigence pour chacun de respecter, dans le cours de sa vie, un minimum de modération et d'humilité, et de se rappeler à tout moment les paroles de l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Vers 1620, c'est dans ce contexte et dans cette région qu'apparaît un nouveau concept dans le domaine des arts picturaux, nommé les vanités. Les vanités, le plus souvent, sont des natures mortes, on va dire même presque toujours, et elles sont porteuses d'un message moraliste qui rappelle aux hommes que lors de leur passage sur Terre, ils doivent privilégier la vie spirituelle et mépriser la recherche des biens matériels, des plaisirs, des honneurs. Les natures mortes, le terme d'ailleurs apparaît exactement vers 1620, conjointement avec le terme vanité. Hein, le terme en soi, nature morte, je vais l'employer, mais il n'existait pas avant, dans ce sens-là, en tous les cas. Donc, il apparaît à cette époque-là. Alors, les natures mortes sont des tableaux qui cherchent à représenter avec un maximum de réalisme des objets inertes, que ce soit des fruits, fleurs, livres, instruments de musique. Les natures mortes existaient dans l'Antiquité, grecque, certainement, on n'en a pas de preuves matérielles, mais romaines, oui. Après, elles disparaissent complètement, ces natures mortes disparaissent dès le début du Moyen-Âge, époque où les mentalités sous la tutelle de la vision catholique du christianisme ne pouvaient concevoir les représentations du monde qu'en tant que forme allégorique ou symbolique et au service d'une représentation de la religion. Au XVe siècle, essentiellement en Flandre et en Italie, un nouveau groupe social se développe. C'est la bourgeoisie du commerce et de la finance, pour qui la vie matérielle a autant d'importance que la vie spirituelle. La Renaissance correspond à ce bouleversement des règles économiques et sociales et à l'apparition de nouvelles conceptions du monde qui conduisent à de profondes transformations dans les mentalités ainsi que dans les pratiques artistiques. Les natures mortes, dotées de lourdes charges symboliques, font leur réapparition. Soit elles constituent une apologie de la générosité de la nature, soit elles sont, le plus souvent d'ailleurs, sont porteuses d'un message moralisateur qui les apparente aux vanités avec un siècle et demi d'avance. Donc à partir du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, ce symbolisme s'atténuera progressivement pour s'en charger d'un nouveau symbolisme diamétralement opposé, qui est celui du culte de l'objet en soi, bon, qui est vraiment un culte contemporain. Alors, donc ici, une fresque, retrouvé à Pompéi, comme c'est souvent le cas, Pompéi Herculanum, donc qui monte une nature morte. Moi je la vois simplement comme, comme une apologie des bienfaits de la nature, de l'abondance. Il n'y a pas de jugement moral particulier. Voilà, c'est une, on a l'impression que oui, c'est, on rend un hommage à la nature. Bon. Alors il y a des pommes. Hein. Alors, évidemment, grand saut. Hein, Moyen-Âge, vraiment trouver une nature morte au Moyen-Âge, on peut, c'est pas concevable. Là, à cette toute fin du Moyen-Âge, donc, ça serait la première nature morte, vraiment une des toutes premières natures mortes. Alors, encore une fois, hein, le terme n'existant pas à l'époque, hein, mais un tableau qui représente des objets, simplement des objets, paraît-il que ça serait vraiment un des tout premiers qu'on ait pu trouver. Et alors, il y a quelque chose sur la boîte là, qui ressemble à une pomme. Alors bon, j'ai décidé que ça serait une pomme pour pouvoir l'intégrer à ma présentation. Est-ce une pomme ? Alors, ici, donc, nous sommes en Italie. Bon, là, c'est vraiment une nature morte. Mais... ce n'est pas simplement une représentation, une apologie des bienfaits de la nature. Hein. Y a une lourdeur là-dedans. Les feuilles sont déjà fanées, les fruits sont mûrs à point. On a déjà un peu l'impression de dire « oui, ça vit, mais ça va mourir, ça va passer ». Il y a déjà un message ou une réflexion sur la vie, en tous les cas. Arcimboldo, bon, connais ? Ah, je suis désolé, j'ai fait une petite erreur. Bon, voilà, donc, Arcimboldo, donc, tout le monde connaît Arcimboldo et ses représentations avec les légumes, les fruits, en particulier de visage humain. Bon, tout le monde en connaît le caractère ludique, je pense qu'à l'époque aussi, ça devait amuser les gens, mais ça n'est pas que ça, hein. C'est pas que ça, c'est... c'est quand même une prouesse technique, hein, c'est amusant, mais il y a aussi un message de cette époque-là qui est de dire n'oublie pas que tu es comme les fruits, comme tu vas durer un petit peu plus longtemps, mais guère plus longtemps. Hein, ces fruits que tu vois là, qui constituent ton visage, dans 15 jours, 3 semaines, ils seront pourris. Voilà, donc il y a un message sous-jacent. Hein. Caravage, bon, pour moi, c'est une des plus belles natures mortes que je connaisse, en tous les cas. Dire que Caravage ait pu mettre un message moralisateur dedans, connaissant le personnage, c'est un petit peu difficile. Mais en tous les cas, il y a une chose, c'est que là aussi, on sent quand même que les choses sont en train de se faner. Hein. Mais c'est très beau. Bon, là, au moins, ça, c'est clair. Clara Peters, donc, qui est une femme peintre, hein, ce qui est quand même femme peintre professionnelle et très reconnue à son époque. Hein, c'est quand même pas si courant que ça. Et là, bon, là, c'est clair, là, le tableau est clairement moralisateur. On est en 1596 en Flandre, c'est pas par hasard. Là, il y a l'abondance de la nature, mais il y a l'économie de l'écureuil. Il n'y a pas de commentaire à faire, c'est clair, c'est net. Là apparaissent les singes. Les singes, dans toute cette période, représentent la vanité humaine. Chaque fois qu'on voit un singe, c'est vraiment, c'est clair, pour l'époque, c'est la bêtise, c'est la vanité des hommes. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la nature qui est abondante, qui est généreuse, et on voit ces imbéciles de singes qui sont en train de tout gaspiller, de tout dilapider. Il y a quand même un message écologiste qui ressemble beaucoup à certains messages qu'on donne actuellement. Hein, cette humanité qui consomme, qui détruit sans réfléchir, on voit que il y a plus de 4 siècles avant, on y pensait déjà largement. Parce que c'est un joli tableau. Alors, encore une fois, chez ce flamand, on a un déferlement Alors, déferlement, je pense que le mot est assez juste, puisque vous voyez la composition du tableau en diagonale. Hein. Les bienfaits de la nature tombent du haut droit pour aller en diagonale vers la gauche. Alors, on voit toutes les choses agréables à consommer. Mais alors là, s'ajoute, là, on est vraiment déjà dans une vanité. D'ailleurs, on en sait 147. Hein. C'est vraiment une vanité au sens propre du terme, parce que s'ajoute à ça eh bien, les plaisirs intellectuels. Hein, c'est-à-dire la musique, la littérature, le théâtre, bon, on n'est pas forcément représenté là, tout ça, ça fait partie aussi des vanités. Le fait d'aimer la musique, le fait dans cette morale-là, ça fait partie de choses contestables. En plus, dans les deux autres angles de la diagonale, on met un perroquet et un chien de salon qui a été taillé dans la... qui a été bien entretenu. Comme le singe représente la vanité à l'époque, le perroquet représente la richesse. Avoir un perroquet à cette époque-là, c'est vraiment faire montre de... C'est avoir une Ferrari, quoi, hein, c'est clair. Hein, c'est vraiment se placer là. Donc on a tous les symboles de la vanité et au milieu, on a ce petit singe qui est en train de se baffrer. Alors ici, on a vraiment une vanité au sens propre, dans le sens où il y a la tête de mort. Alors, une vanité, il y a toujours une tête de mort. Bon, le symbole, il n'y a pas besoin de vous l'expliquer, il est très clair. Je voulais quand même vous montrer une vraie vanité avec tête de mort. Et bon, il y a un truc qui ressemble à une pomme, hein, mais franchement, allez, je pense que c'est un encrier qui est renversé. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez la flûte à bec sur le côté du pavillon de la flûte à bec, juste au-dessus, il y a un truc rond. Bon, j'ai regardé à la loupe, tout ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. On va dire que c'est une pomme, comme ça je peux placer le tableau. Parce que, eh bien, des vanités, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de musées. Je suis allé sur Internet, j'ai fouillé énormément. Ben moi, j'ai pas trouvé une vanité avec tête de mort où il y a une pomme. Alors peut-être que j'ai mal cherché, si quelqu'un en trouve, il me dira, je n'ai pas trouvé une vanité avec une pomme. Alors je ne sais pas la raison, alors que dans les natures mortes, même celles qui ont un caractère de vanité où il n'y a pas la tête de mort, des pommes, bah, il y en a vraiment à foison, quoi. Alors là, Chardin, hein, bon, on a fait un petit saut de 100 ans. C'est le siècle des Lumières, siècle de la philosophie, un siècle beaucoup plus matérialiste. Et là, dans cette nature morte, c'est clair et net, hein, il n'y a pas de message moralisateur ni religieux. Là, on s'intéresse à l'objet en soi. Bon, on est vraiment au XVIIIe siècle. Hein. L'objet en soi, pour sa forme, pour sa couleur, pour la lumière. Et alors, c'est extraordinaire comme ce tableau de Chardin, quand même, est prémonitoire. Des tableaux qui vont être faits plus de 130 ans plus tard par les impressionnistes en particulier. Alors, là, on est aux États-Unis avec un peintre que moi je ne connais pas qui s'appelle Ruben Spiel. Et alors là, c'est assez amusant, mais pas non plus étonnant. De retrouver une nature morte qui se retrouve avec tout le symbolisme, hein, avec le fruit qui pourrit, avec toujours ce message de brièveté de la vie. Et bien, on est aux États-Unis dans un monde qui est très très rigoriste et religieux, et donc les peintres, la peinture américaine en particulier, a un grand rôle social et moralisateur. Et en fin de compte, ce Ruben Spiel, donc se reprend deux, trois siècles en arrière sur ses façons de voir le monde. Alors, ce qui est assez amusant, peut-être que c'est moi qui divague, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'analogies, même si c'est inversé, entre le tableau de Caravage et celui de Peel. Bon. On dira peut-être le génie en moins. Alors, donc, les natures mortes vont vraiment énormément intéresser les impressionnistes. Tous ont peint énormément de scènes d'intérieur, d'intérieur petit bourgeois, de toutes ces scénettes qui donnent une impression de vie chaleureuse, confortable, paisible. Et si on se rappelle tout à l'heure, hein, du tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'est incroyable comme il peut être prémonitoire. Monet, dans une nature morte bien sage pour lui, Sisley, bon là vraiment c'est un intérêt pour les lumières. Hein. Courbet, qui a peint énormément de pommes, celles-ci sont vraiment traitées d'une façon très, très naturaliste. Encore Courbet, tableau un peu bizarre. Alors Cézanne, bon là on est dans un point de rupture. Puisque Cézanne donc va vraiment est prémonitoire, on peut même pas dire prémonitoire, il ouvre la porte à l'art cubiste, hein, puisque sa géométrisation des formes, la façon dont il va cerner tous les objets pour en garder la géométrie, c'est vraiment quelque chose qui amène le cubisme. Même si souvent Cézanne a été lié aux impressionnistes, on est quand même dans une dimension différente. 1950, façon de voir de Magnelli, nature morte à la pomme. Picasso, donc dans quelque chose de très géométrique et très décoratif, 1962. Alors, Nos fameuses vanités avec tête de mort, la tête de mort est revenue tout à fait en vogue à la fin du XXe siècle et continue encore. La tête de mort, c'est un incontournable de tout ce qui est punk, métal, tout un domaine de la bande dessinée, du film fantastique, de la fantasy, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est devenu très à la mode et des photographes se sont pas mal amusés à essayer de faire des tableaux qui ressemblent à des vanités anciennes. Alors là, celui-ci qui n'est pas particulièrement bien réussi, mais ce qui est amusant, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, Cézanne a fait cette nature morte en 98, et là, qui est bien une vanité, il a mis un crâne. Mais bon, moi, je ne vois pas de pomme. Moi, je ne vois pas de pomme. En revanche, notre photographe, lui, nous a mis une pomme. Bon, Cézanne, c'est peut-être un peu mieux quand même. Bon, je suis désolé. Voilà, en tous les cas, encore une fois, dans cette vanité, vraie vanité à tête de mort, ben, pas de pomme. Bon, on termine par Magritte, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec notre sujet des mythes, mais c'était pas possible de vous parler des pommes sans au moins vous montrer un tableau de Magritte. Voilà, je vous remercie.